Par Via Gab, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Édouard Dupenoit.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Appel sur l'actualité, on est ensemble jusqu'à 9h en temps universel. Le vendredi, c'est vous qui choisissez les sujets que l'on met sur le tapis, qu'il s'agisse du parcours de Paris en Ligue des champions de football, de la rencontre entre les présidents centrafricains et français, du climat aussi, de ce choc entre la canicule qui a frappé plusieurs pays du Sahel et les pluies diluviennes autour des Grands Lacs. On vous donne la parole sur tous ces sujets dans une trentaine de minutes. Vous nous écrivez sur la page Facebook d'Appel sur l'actu, sur notre numéro WhatsApp aussi, je vous le redonne, le 33 6 89 28 53 64. Tout cela donc dans 30 minutes. Avant cela, on répond aux questions que vous nous avez adressées, que vous avez posées à la rédaction de RFI et à nos experts. Nous sommes au Tchad, à Moundou précisément, où c'est Janvier qui est en ligne avec nous. Bonjour Janvier.
Oui, bonjour Edouard, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RFI.
Soyez le bienvenu sur l'antenne de la Radio Mondiale, Janvier, on écoute votre question.
Merci bien. Abdelaziz, le 9e émissaire des Nations Unies en Libye, vient de démissionner. Comment expliquer qu'aucun des émissaires jusqu'à présent n'arrive à trouver des solutions? Pourrait-elle arrêter de soutenir les pays?
On va prendre votre question dans l'ordre. Comment expliquer d'abord qu'aucun des émissaires nommés jusqu'à présent, vous l'avez souligné, Janvier? C'était effectivement le 9e, Abdoulaye Batili, ancien professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui jette l'éponge après un an et demi en poste et avec des mots très francs qui tranchent avec le ton diplomatique policé habituel. Ouda Ibrahim est avec nous en studio pour vous répondre. Bonjour Ouda.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. C'est vrai, Janvier le rappelait, il y a eu 8 envoyés spéciaux pour la Libye et une envoyée spéciale par intérim, c'était l'américaine Stephanie Williams.
Oui, l'échec de l'ONU est dû à de nombreux facteurs. D'abord, la division et l'hypocrisie de la communauté internationale qui ne parle pas d'une même voix, du moins en ce qui concerne ce dossier libyen et qui, on l'a vu, s'entendre sur des déclarations mais applique finalement l'agenda qui défend le mieux l'intérêt de chacun, surtout quand il s'agit d'un pays stratégique et pétrolier comme la Libye. L'émissaire sénégalais, Abdoulaye Batili, n'a pas été aidé par les démocraties occidentales. Il a travaillé seul, sans être appuyé, alors que l'Afrique a lutté pendant longtemps au sein de l'ONU pour imposer un Africain à la tête de la MANUL, qui défendrait justement une position africaine non alignée et qui chercherait une solution loin des intérêts des uns et des autres. Cet échec est dû également aux interventions et ingérences de nombreux pays, dont des pays régionaux comme la Turquie, les Émirats ou l'Égypte, qui sponsorisent des parties libyennes et qui cherchent à avoir plus d'influence régionale. Il y a également la présence de mercenaires et des milices et leur pouvoir destructrice.
Alors, il faut aussi rappeler un élément de calendrier important. Il aurait dû y avoir le 28 avril une réunion dite de réconciliation, elle était prévue à Sirte. Elle aurait dû mettre autour de la table différentes factions qui se disputent, différentes zones de pouvoir en Libye, entre la Tripolitaine, la Cyrénaïque, le sud du pays. Mais, et c'est ce que Abdoulaye Batili disait, l'autre raison à l'échec de sa mission, c'était le manque de volonté politique et de bonne foi de ses différents dirigeants libyens.
Tout à fait. Depuis 2011, la Libye a vu naître une classe politique libyenne, puissante et corrompue, qui, comme l'a rappelé Abdoulaye Batili, s'accroche au pouvoir et défend ses propres intérêts au lieu de celui du pays. Résultat, cette classe toute entière barre la route aux élections, à la conférence de réconciliation nationale. Elle fait obstruction pour perdurer au pouvoir.
Alors, donc c'était le 9e émissaire en comptant donc Stephanie Williams. D'où, Janvier, cette question que vous vous posez sur ce soutien de l'ONU?
Oui, l'ONU pourrait-elle arrêter de soutenir les pays?
C'est vrai, après avoir usé 9 envoyés spéciaux, est-ce que l'ONU pourrait jeter l'éponge?
Non, parce qu'il faut rappeler que la Libye est placée depuis 2011 sous le chapitre 8 aux Nations Unies, c'est-à-dire sous tutelle pratiquement. Le pays ne pourrait pas être maître de lui-même, sauf après l'organisation des élections libres et indépendantes. Tous les gouvernements qui ont pris place depuis étaient des gouvernements provisoires ou par intérim. La situation est dans l'impasse totale. La période de transition dure depuis 13 ans et le pays est en proie au chaos généralisé. La conférence de réconciliation nationale, prévue à l'origine ce 29 avril, est renvoyée à une date ultérieure non encore précisée. L'ONU doit prochainement désigner un nouvel émissaire, mais cela pourrait prendre quelques mois, comme cela s'est illustré dans le passé, en raison justement des divisions et des intérêts opposés.
On a beaucoup parlé donc de ces dirigeants qui se disputent le pouvoir à la tête de diverses factions, de divers parlements rivaux, mais la population libyenne, elle prend l'occasion, elle saisit l'occasion de rappeler, souvent dans la rue, via des manifestations, qu'elle ne croit, elle, qu'à une solution, entre guillemets, libano-libyenne, qui ne viendrait que de l'intérieur du pays et plus du reste de la communauté internationale.
Oui, cette population libyenne est persuadée aujourd'hui que l'ONU ne fait qu'administrer la crise au lieu de la résoudre. La mainmise une nouvelle fois des États-Unis sur l'AMANUL, la mission d'aide des Nations Unies en Libye, à travers Stéphanie Khoury, la numéro 2 de la mission et qui devient de facto envoyée par intérim, n'encourage pas la population libyenne consciente que l'on va encore vers plus de complications dans ce dossier. Ce qui complique davantage cette crise, ce qu'elle est devenue une crise tiède par rapport aux guerres actuelles en Ukraine et à Gaza et qui retiennent actuellement toute l'attention de la communauté internationale, Edouard.
Ouda Ibrahim, journaliste au service Afrique de RFI. Merci beaucoup, Ouda. Merci, Janvier, de nous avoir appelé de Moundou au Tchad. On va traverser l'océan Atlantique puisque notre prochain auditeur nous attend dans le New Jersey. Bonjour Ousmane.
Bonjour Edouard.
Vous êtes particulièrement matinal puisque si je ne m'abuse, il est 4h17 où vous vous trouvez. Bon réveil, on écoute votre question Ousmane.
Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le cabinet de conseil Harry and Partner affirme que les grandes fortunes devraient augmenter de 65% sur le continent dans les années prochaines. J'aimerais savoir comment expliquer cette hausse importante.
On va répondre à votre question avec Ilham Cheblaoui, journaliste également au service Afrique de RFI. Bonjour Ilham.
Bonjour.
Alors effectivement, le nombre de millionnaires sur le continent africain devrait augmenter de 65% dans les 10 prochaines années. Comment on l'explique ?
Eh bien, de plusieurs façons. Les experts du rapport mettent en avant la croissance de certains secteurs clés comme la technologie financière, le tourisme, l'accès à de nouvelles exploitations minières, les technologies vertes ou encore les médias. Et ça, ça offre d'énormes opportunités aux investisseurs africains. Il y a aussi l'augmentation massive de la population des jeunes. Selon les chiffres des Nations Unies de 2020, 60% de la population africaine est âgée de moins de 24 ans, contrairement à la Chine, par exemple, où elle a tendance à décliner, ce qui conduit tout simplement à une croissance significative des consommateurs en Afrique. Et puis, ça s'explique aussi par une émergence de la classe moyenne qui va naturellement avoir besoin de services supplémentaires au niveau financier, technologique ou encore en termes d'assurance, ce qui permet de créer de nouveaux marchés. D'ailleurs, l'augmentation du nombre de millionnaires est encore plus flagrante en Afrique, étant donné qu'il s'agit d'un marché très dynamique et en plein développement.
On va redonner encore un chiffre donc, qui vient de l'étude de ce cabinet de conseil anglais qui estime que 135 200 personnes disposent d'au moins 1 million de dollars américains qui sont susceptibles d'être investis en bourse. Voilà comment ils ont établi le nombre de millionnaires ou en tout cas de grandes fortunes sur le continent. Avec beaucoup de disparités tout de même, Ilham, les raisons de cette augmentation du nombre de personnes fortunées diffèrent donc radicalement d'un pays à l'autre.
Tout à fait. Prenons le cas de Maurice par exemple. Le pays va connaître un boom de 80% de sa population fortunée durant les 10 prochaines années. Ce qui va attirer les investissements directs étrangers, eh bien, c'est son régime fiscal attrayant avec un taux d'imposition unique de 15% sur les revenus. Alors que pour la Namibie, ce sera plutôt grâce à son emplacement stratégique, mais aussi ses réserves d'uranium, de diamants, d'or et de cuivre qui attirent les investisseurs. Mais attention, après tout, il s'agit là que de prédictions, rien n'est donc certain à 100%.
Il y a aussi un piège, ou en tout cas une précision qu'il faut donner aux chiffres de ce cabinet anglais. Beaucoup de nouveaux millionnaires sont issus du continent, sont aussi censés débarquer sur le continent africain. mais il y en a beaucoup, et notamment des milliardaires qui, eux, en revanche, repartent.
Oui, rien que durant les 10 dernières années, environ 18 700 personnes fortunées ont quitté l'Afrique. On compte d'ailleurs 54 milliardaires nés sur le continent dans le monde, mais seuls 21 d'entre eux y vivent encore, selon le rapport de Henley & Partners. Ils ont tendance à s'enrichir sur le continent et ensuite s'établir ailleurs dans le monde, au Royaume-Uni, en Australie ou encore aux Émirats Arabes Unis, à la recherche d'une meilleure qualité de vie. L'éducation, la santé et les infrastructures sont aussi des critères sur lesquels ils se basent pour choisir leur future destination. Et là, il s'agit d'une préoccupation majeure pour les spécialistes du cabinet londonien, parce que les milliardaires sont souvent des entrepreneurs et des fondateurs d'entreprises et qui ont donc la capacité de créer de l'emploi dans leur pays d'accueil. Mais pas de panique, beaucoup passent du temps à l'étranger et éprouvent ensuite le besoin de réinvestir dans leur pays d'origine, selon les experts. Et puis, les familles ultra-riches se mondialisent. Selon le rapport, il est de plus en plus possible pour les grands-parents, qui sont souvent à l'origine de la richesse familiale, de résider quelque part comme en Afrique du Sud, tandis qu'un de leurs enfants vit au Royaume-Uni, un autre à Dubaï, etc. Et donc les entreprises sont réparties dans plusieurs endroits sur différents continents.
Enfin, et quand on parle toujours de ces grandes fortunes qui restent sur le continent africain, où est-ce que ces fortunes résident en particulier ?
Principalement en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria, au Kenya ou encore au Maroc. Ces Big Five représentent à eux seuls 56% des millionnaires du continent et 90% de ces milliardaires. Et c'est d'ailleurs à Johannesburg, en Afrique du Sud, qu'on retrouve le plus de personnes fortunées, 12 300 millionnaires et 2 milliardaires, là où se trouve la plus grande bourse d'Afrique. Vient ensuite le Cap, connu pour être une destination de retraite de plus en plus populaire pour les millionnaires migrants d'Europe et du reste de l'Afrique. La péninsule devrait d'ailleurs dépasser Johannesburg pour devenir la ville la plus riche d'Afrique d'ici 2030.
Ilham Cheblaoui, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions d'Ousmane qui nous appelait du New Jersey. Merci de votre fidélité malgré cette horaire nocturne à la Radio du Monde. On est en ligne avec Kinshasa maintenant, capitale congolaise. C'est Jean-Baptiste qui nous attend. Bonjour.
Bonjour Edouard Dupenot, bonjour à tous.
Vous aviez une question sur une nouvelle loi promulguée cette semaine par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Oui, c'est plutôt deux questions. Hein. Cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promulgué une loi pour mobiliser davantage des hommes sur le front. Alors, je vais commencer par la première question. Pourquoi cette loi est-elle controversée dans le pays ?
C'est Ulrich Bouna qui va apporter des éléments de réponse à votre question. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et merci de donner quelques minutes à Radio France Internationale. Vous êtes spécialiste de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est et chercheur associé à l'Institut Open Diplomacy. Pourquoi cette loi qui devrait permettre effectivement une mobilisation accrue de la population ukrainienne dans l'armée est-elle aussi controversée ?
Alors, donc effectivement, elle a été promulguée par le président Zelensky mardi. Elle vise à compenser en fait des manques humains dans l'armée ukrainienne que l'on constate en fait dans certains points du front où effectivement, d'après les aveux d'un général ukrainien, les rapports sont parfois de 6 à 7 pour 1, donc 6 à 7 soldats russes pour un soldat ukrainien. Donc, ce qui pose de véritables problèmes. La raison pour laquelle elle est controversée, il y en a plusieurs. La première, c'est que déjà, il a fallu plusieurs mois pour la voter, donc elle arrive finalement assez tard. Et donc, pour le coup, ça a contribué à accentuer les problèmes de l'armée sur le front. Ça ne prend pas non plus en compte une demande qui est vraiment très forte dans les premières lignes ukrainiennes, qui est un horizon de démobilisation. Donc pour ceux qui sont mobilisés depuis plus de 2 ans, effectivement, il y avait l'espoir qu'il y aurait potentiellement une date de démobilisation au bout de 3 ans ou 4 ans de guerre.
C'est ça.
Ça n'en fait pas partie. Donc effectivement, c'est très problématique aussi pour ces soldats-là.
C'est un amendement qui a finalement été retiré in extremis au moment du vote de la loi, alors que cette loi, à l'origine, comprenait un horizon de démobilisation pour ces soldats qui sont au front depuis parfois 2 ans.
Tout à fait, exactement. Il y avait un amendement pour démobiliser au bout de 3 ans. Il a été retiré à la demande des militaires ukrainiens, et avec la promesse que cet amendement sera rediscuté d'ici la fin de l'année, mais c'est très peu probable. En tout cas, ce n'est pas les signaux qui sont envoyés par l'administration présidentielle. Donc effectivement, ça pose aussi un problème pour les soldats et aussi pour les futurs mobilisés qui ne savent pas véritablement combien de temps tiendrait cet engagement. Et dernier point aussi, c'est que ça n'a pas non plus levé toutes les réserves et toutes les craintes sur les différentes possibilités en fait d'éviter la mobilisation d'une façon ou d'une autre. Les règles sont parfois un petit peu arbitraires. Mmh. On a vu des cas de gens qui étaient parfois un petit peu alpagués comme ça dans la rue pour aller servir dans l'armée. Donc ça n'a pas non plus complètement réglé ce problème aussi de qui finalement, quelles sont les exemptions, qui a le droit d'aller dans l'armée ou pas.
D'autant que c'était une question qui avait déjà soulevé plusieurs controverses et vives polémiques. Des citoyens qui avaient pu être démobilisés pour des raisons parfois obscures. On avait suspecté une forte corruption auprès des militaires qui pouvaient les mobiliser. Le président Zelensky avait entamé un grand nettoyage, d'ailleurs, il y a quelques mois, au sein de ces militaires chargés du recrutement. Jean-Baptiste, je me permets de prendre dans ma voix la deuxième partie de votre question, qui était de savoir si cette nouvelle mobilisation, cette nouvelle possibilité de mobilisation pourrait contenir les offensives russes sur le front ?
Alors, c'est une vraie question. Déjà, le chiffre effectif de cette mobilisation est secret défense, donc on a du mal à savoir. A priori, donc, le chiffre initial était de 500 000. D'après le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, on sera beaucoup moins aujourd'hui. Donc, difficile à dire en termes de chiffres. Après, en termes de capacité, il y a quand même des vraies questions qui se posent aussi sur les capacités ukrainiennes à déjà réunir l'argent pour payer ces soldats, sachant que le salaire a été augmenté. Mm-hmm. Comment seront-ils formés et équipés ? Très probablement en partie par les Occidentaux. Ce qui supposerait qu'effectivement, ces soldats ne seraient pas disponibles avant probablement le début de l'été, au moins pour les premiers d'entre eux. Donc, effectivement, ça résoudra pas le problème à court terme probablement de l'Ukraine face aux offensives russes, mais ça pourrait potentiellement permettre de combler les trous d'ici quelques mois, d'ici l'été, surtout si la Russie prépare une offensive comme certains l'affirment.
Alors il y a un autre aspect de cette loi qui est particulièrement controversé, ou en tout cas qui a suscité des réserves de la part de cercles de réflexion et de défenseurs des droits humains. Elle permettrait, selon des critères bien précis, de mobiliser des détenus, des gens emprisonnés, en échange d'une possible remise de peine.
Tout à fait, effectivement, et c'est un petit peu, je dirais, la réponse, grosso modo, de cette même tactique qui a été adoptée par les Russes. Alors, pas de la même façon, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans des recrutements massifs dans les prisons, mais effectivement, ça part d'une réalité assez évidente, hein, pour l'Ukraine, qui est un problème démographique plus global à la société ukrainienne, et que donc effectivement, vu les circonstances actuelles et le manque d'hommes en Ukraine, effectivement, toutes les catégories de la population, que ce soit les détenus, même aussi les femmes, il y a une discussion pour augmenter le nombre de femmes dans l'armée. Donc effectivement, je dirais que l'armée ukrainienne est obligée, et le gouvernement ukrainien est obligé d'aller chercher des hommes partout où ils sont, des hommes avec un grand H, hein, des gens partout où ils sont pour essayer de combler les trous. Et donc effectivement, dans ce cadre-là, aller chercher des prisonniers, entre guillemets, fait sens. Alors, certaines catégories de prisonniers les plus dures sont exclues, mais effectivement, c'est vrai que pour le coup, les Ukrainiens sont obligés de faire un petit peu avec ce qu'ils ont, et donc effectivement, dans ce cadre-là, aller chercher des détenus, c'est pas forcément la chose la plus évidente qui soit, mais par contre, effectivement, voilà, je dirais que nécessité fait loi dans ce cadre-là.
Bien sûr. Alors, on précise qu'effectivement, il ne s'agirait pas de tous les détenus. On a entendu certaines voix comparer ça aux méthodes du groupe Wagner au début de l'invasion russe, qui avait la possibilité de sortir de prison des détenus parfois condamnés pour des crimes très lourds en échange d'une amnistie. Ici, ça ne concernerait pas les détenus qui ont été condamnés pour meurtre, pour crimes sexuels ou pour atteinte à la sécurité de l'État. Ulrich Bouna, je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps ce matin pour répondre aux questions de Jean-Baptiste, qui nous appelait de Kinshasa. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut Open Diplomacy. Jean-Baptiste, vous nous appeliez de Kinshasa. Est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Merci beaucoup, c'est suffisamment répondu. Merci à vous, Edouard Dupénot. Merci aussi à votre correspondant, et merci de m'avoir fait passer en antenne.
Merci de votre fidélité à Radio France Internationale. Vous restez avec nous. Dans une dizaine de minutes, on ouvre la libre antenne du vendredi pour les questions qui vous intéressent, les sujets sur lesquels vous souhaitez revenir. On va parler notamment de l'attente du gouvernement congolais, plusieurs semaines après la nomination d'une première ministre, après que l'informateur Augustin Kabouya a remis sa copie aussi, en identifiant la majorité auprès du président Tshisekedi. Vous nous appelez au 33 9 693 693 70. Dans 30 secondes, c'est toute l'actualité africaine.
Dans le forum d'Adjamé,
à Grand Bassam,
RFI à Abidjan sur 97.6 FM.
Au cœur du marché aux oiseaux,
à pied dans Flower Street,
RFI à Kaboul sur 89.5 FM.
Rue de la Chine,
place Stalingrad,
rue de Rome.
Le voyage continue avec RFI à Paris sur 89 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.